Bon, vous écoutez Pop Pop Pop. Et bien, Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Il est des jours quand on fait une émission comme Pop-pop-pop, consacrée à la pop culture, où la légitimité de l'invité peut susciter des débats passionnés au sein de l'équipe, notamment lorsque nous recevons des alpinistes, des charcutiers traiteurs ou des philatélistes polymorphes. Eh bien, il est aussi d'autres jours où la question ne se pose même pas, tant l'évidence saute aux yeux comme la Légion sautait sur Colvézi. Tiens, aujourd'hui par exemple, celui que nous recevons peut légitimement être considéré comme un pape de cette fameuse pop culture. Et on se réjouit que ce ne soit plus une sous-culture, car nous aurions alors été en présence d'un soupape. Oui, l'humour est toujours le bienvenu dans cette émission. Mais attention, un pape façon Renaissance, tendance Borgia, décadent, amateur de chair fraîche, d'alcool fort, de substances psychotropes, pas un de ces papes lyophilisés qui prêchent l'amour en interdisant la capote. Sans notre invité, on peut même dire que la pop culture n'aurait pas aujourd'hui la puissance et le rayonnement qu'on lui connaît, et une émission aussi prestigieuse que Pop 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 serait sans doute relégué dans un coin de la grille de France Inter quelque part au milieu de l'après-midi. Grâce lui en soit donc rendue, grâce nous allons donc lui rendre Jean-Pierre Dionnet et l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop.
Au menu de l'émission, un pape donc enfant du rock et un des pères de la BD. Bonjour Jean-Pierre Dionnet.
Bonjour, je suis donc dans Papa Pape.
Oui, exactement, c'est Papa Pape. Et à mes côtés, non pas une soupape, mais ma roue de secours. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Antoine de Caunes. Bonjour Jean-Pierre Dionnet.
Bonjour. Au menu également de Pop Pop Pop, un autre couteau suisse de la pop culture. Elle s'appelle Guédré. Elle est humoriste, auteure et compositrice. Elle viendra nous présenter son nouveau livre La boîte de petits pois. Elle sera en live sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Oui, c'est aussi ça, la pop culture. Mais justement, avant ça, Jean-Pierre Dionnet, ici, il existe une question qui peut faire encore plus mal à l'enfant du rock que de tomber sur ça à la radio.
Allez, reste encore un peu, toi et moi, faire au mieux.
Vianney et Boulevard des Airs, un des tubes de l'été avec Allez, reste, alors qu'on aurait plutôt envie de dire Allez, dégage. Et cette question, c'est...
Jean-Pierre Dionnet. Pour vous, c'est quoi la pop culture ?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses jean-pierrisées, dionysantes, voire dionysiaques, et même humanoïdiseuses. Et parmi mes préférées, il y a celle de votre ex-collègue Philippe Manœuvre. Écoutez.
Pour moi, la pop culture, j'ai envie de vous dire, c'est les poubelles de l'Amérique. Mmh. C'est tout ce que les Américains essayent de faire, qui ratent ou qui réussissent parfois. Mais enfin, si vous allez chez Cash Converter, là où il y avait les disques vinyles à revendre, maintenant il y a les vieux jeux vidéo. Enfin, c'est la pop culture. Pour moi, c'est un peu
c'est le recyclage. Plutôt
ouais, c'est un recyclage. Mmh. C'est tout ce qui reste, tout ce qu'on va réutiliser, réemprunter.
Alors voilà pour Manœuvre. Et maintenant pour vous, Jean-Pierre Dionnet, c'est quoi cette pop culture?
Bah pour moi, la pop culture, qui va dans tous les sens, hein, ça peut être le polar, le film Zarbi, la musique bien sûr. Je pense qu'en 19 mois de carrière, Buddy Holly est passé du rock au pop. Mm-hmm. Donc le pop, ça commence tout de suite, I Think I'm Gonna Die, il s'écrase dans l'avion juste derrière. Donc pour moi, la pop culture, c'est plus important que le rock. Parce que le rock, c'est un phénomène de rébellion qui peut plus marcher. Parce que maintenant, quand les grands-parents, les enfants, les parents vont tous voir les Rolling Stones, c'est presque comme quand on allait voir Beko ou Verschuren. Mmh. Non, moi, je revendique la pop culture, qui n'est pas le pop art, parce que ça a été l'émergence soudaine dans tous les domaines de la BD en France, par exemple, du... nouveau rock en Angleterre, de tous les domaines, dans tous les domaines, j'ai de Manchette qui transforme le polar, d'un certain cinéma. Je pense que Cronenberg, c'est de la pop culture, même si maintenant on le prend au sérieux parce qu'il est canisé. Non, la pop culture, je dirais même que parfois, j'en ai assez, parce qu'elle est devenue tellement évidente que des gamins que je croise me disent « J'ai revu Argento, demain je me tape à David Lynch » et je dis « Vous avez jamais vu un Bergman ?» Ils disent « Un quoi ?» Alors, je crois que dans ma seconde vie, je vais devenir le Jean d'Ormesson du pauvre et que je vais dire « Écoutez, il faut relire Paul Bourget, il faut absolument voir tous les films de Yves Mirande, surtout ceux où il y a Julien Carrette. » Et la littérature s'arrête, à mon avis, avec Raymond Queneau. Quant à la musique, effectivement, après André Verschuren, il n'y a pas grand-chose.
Histoire de contrebalancer. Ne dis pas ça.
Jean-Pierre, n'en jetez plus, je crois que je tiens ma définition. Vous êtes donc plutôt un enfant de la pop qu'un enfant du rock. Et c'est un scoop de ce début du mois de septembre 2019.
Bah oui.
Je le prends. Alors, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau de Sampa The Gretz. C'est une rappeuse originaire de Zambie et adoubée par Kendrick Lamar, Joey Badass. On écoute Final From.
Grace, baby, I can't afford to cover the course. Of course, maybe settle that one in court. Cause judging by the basics, y'all already comfortable, stuck up in the matrix. It's basic, patch credentials. But understand your favorite rapper, peep my gold potential. I'm out of shame, been passive, trying to fit the circle. Cause I don't know how to act. Half of y'all is steady, insecure, don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic. Young veteran, new classic. Knock the walls off. The whole key, we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it. It's life after death, roll the credits.
Save my feelings for you still exist.
Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Molly spirit with the vapor, back to Zion, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. And this, I put my pen in it, got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh of my flesh. Greatness in me, you can't make me feel less. Let's hold. I'm not impressed. Best mode, got my afro like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. First name Eve, somebody ate the food they told the great to never eat. I'm tripping, DNA sees like I'm born gray. I be mad 2 G's, third world in it, first world I dated. No mentor, all my heroes assassinated. We been here, we collated. Tryna finish what they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin.
Et le son Made in Zambie de Sampa The Gretz avec ce morceau Final Form. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un homme qui a joué au ping-pong avec Michael Jackson et réciproquement. Et rien que pour ça, il méritait un pop portrait. Mais qui est ce pongiste pop? Réponse avec son pop portrait. Mais alors, votre pop portrait, Jean-Pierre, c'est votre portrait bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Très bon démarrage.
Aujourd'hui, un invité que l'on pourrait décrire comme une version des conseillers au moins de 16 ans d'Alice au Pays des Merveilles, qui elle-même n'est déjà que très moyennement recommandable pour les jeunes gens ayant tendance à passer volontairement de l'autre côté du miroir. Si je parle d'Alice, c'est que tout comme elle, notre invité, depuis son plus jeune âge, s'adonne non pas à la consommation de champignons, quoique, mais à la rêverie, activité dont il a fait une arme, un art et un métier. Une tendance à la rêverie tout support, en librairie, à la télé et au ciné, dans Métal Hurlant qu'il a cofondé, L'Impeccable, Sex Machine et évidemment Ma Madeleine à moi.
Cinéma de quartier.
Un invité qui a contribué à donner à la science-fiction la place qu'elle méritait, ainsi qu'au cinéma de peur, de genre et parfois un peu bancal. Un invité qui aime le ciné au point de le distribuer, la BD au point d'en écrire et d'en publier. Bref, nous sommes ravis d'accueillir Alice... Non, Jean-Pierre Dionnet.
Jean-Pierre Dionnet, vous avez joué au ping-pong avec Michael Jackson. Rassurez-moi, vous aviez quel âge ?
Oh, je devais avoir, on va dire, 32 ans. Ça va, en fait, j'avais les mêmes pantoufles avec des têtes de loup que Franck Dileo, son manager. Ça crée des liens.
Ah bah évidemment, hein. Ça crée des liens.
Et il m'a dit, va voir derrière. Et je pense qu'à ce moment-là, il pensait que j'allais décrocher l'interview en le pulvérisant au ping-pong. Sauf que je suis tombé sur Bruce Lee, qui m'a pulvérisé en deux secondes, qui a fait « PAAAH !» et qui est parti. Et coup, donc, je n'ai pas fait l'interview, mais j'ai plongé.
Vous avez plongé avec Michael Jackson. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Jean-Pierre Dionnet, il n'y a pas que le ping-pong dans la vie. On poursuit avec votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Une sorte de vie. C'est l'autobiographie de Graham Greene, parue en 1971. Charline, n'est-il pas ironique que Jean-Pierre, qui publie son autobiographie, choisisse une autobiographie comme livre culte ?
Un essai d'autobiographie, comme le précisait le sous-titre du livre disparu depuis. Graham Greene y raconte les circonstances qui l'ont amené à devenir l'écrivain qu'il était, ainsi que bon nombre de choses tenues secrètes jusque-là, comme par exemple les circonstances de sa conversion au catholicisme.
Merci. Jean-Pierre Dionnet, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Tout ce que l'on deviendrait un jour de déjà se trouver là, pour le meilleur et pour le pire. Peut-être l'avenir est-il pu se lire dans la forme des maisons, autant que dans les lignes de la main. Faux fuyants et tricheries ont emprunté leur forme à cette fine auderie des visages alentours et aux cachettes du jardin, des terrains communaux et des... C'est là, à Berkhamsted, que s'est modelé le premier masque dont le moule servirait sans fin. 20 ans durant, ce serait presque l'unique théâtre où se jouerait bonheur, détresse, premier amour, premiers essais d'écriture. Et je serais très surpris, je crois, si par l'effet des coïncidences, par le canal de l'inconscient qui commande nos actes, par folie ou sagesse, je ne me trouvais pas ramené en ces lieux où tout est né, pour y mourir.
C'est extrait d'Une sorte de vie, l'autobiographie de Graham Greene, sortie en 1971. Y a-t-il des points communs entre Graham Greene et Jean-Pierre Dionnet, comme par exemple un certain attrait pour la presse ?
Oui, il y a des points communs avec Graham Greene. D'une part, parce que Graham Greene est un personnage double ou triple et que mon père a eu des activités, j'allais dire Graham Greenesque, où on ne sait pas s'il était dans l'armée ou dans le renseignement. D'autre part, et surtout, je crois qu'Une sorte de vie, ça m'a prouvé que je pouvais pas faire ce livre-là. Parce que je suis aussi persuadé que lui que les jeux sont faits à l'âge de 10 ans environ. Et qu'ensuite, on ne fait que perfectionner et puis après pratiquer.
Oui.
Et Graham Greene, quand il raconte par exemple une révolution en Uruguay, où il est là au bar, il bouffe avec ses copains, il rentre en Angleterre, il apprend qu'il y a eu une révolution pendant ce temps-là, je trouve ça totalement génial. Alors, j'ai pas beaucoup de points communs avec Graham Greene, parce que c'est un génie de l'écriture, et moi il m'a terrassé dans la suite, qui s'appelle Les chemins de l'évasion, parce qu'il dit « Oh là, j'ai vu Corda, je lui ai dit j'ai une idée, il y a un mec qui meurt, 15 jours après on le voit au Prater, on appelle le troisième homme, ok on fait le film. » Et il dit « J'ai eu 15 jours pour plier le scénario. » Alors là...
15 jours pour le scénario du troisième homme, oui.
Voilà.
C'est effectivement une forme de génie. Alors pourquoi Une sorte de vie plutôt que Nu au soleil, la première revue érotique que vous avez subtilisée à l'adolescence ?
Nu au soleil, d'abord, ça ne dira plus grand-chose à personne, puisque maintenant, les revues de sexe ont disparu. Ou alors, il y a Internet, et on est dans ce que j'appelle la gynécologie, on voit tout. Nu au soleil, il y avait un nuage aérographé sur les parties féminines, et comme je n'avais jamais vu de nu féminin, j'avais pas de sœur, j'avais une mère qui s'enfermait... Pendant longtemps, ce nuage blanc m'a beaucoup interrogé. Ouais. C'est que la première fois que j'ai vu une femme nue, j'ai vu qu'à la place du nuage, il y avait autre chose et j'étais un peu interloqué.
Interloqué et déçu?
Non, après intéressé, parce qu'on m'a forcé à passer aux travaux pratiques. Moi, j'étais pour rien. C'est la jeune femme en face de moi, un peu plus âgée et plus délurée, parce que je n'étais pas très déluré. Mais c'est vrai que nu au soleil, j'étais forcé de le voler parce que j'avais pas le droit de l'acheter.
Est-ce que ça expliquerait aussi vos tendances zoophiles parfois?
Ma?
Vos tendances zoophiles?
Zoophile, qu'est-ce que j'ai fait de...
Non.
Qu'est-ce que j'ai fait de zoophile? Ah, mais c'est pas dans le livre, j'ai pas parlé. J'ai pas parlé de mon cheval.
À propos de Nu au soleil, Jean-Pierre Dionnet, pour le film, vous avez choisi Le Voyeur. C'est un film réalisé par Michael Powell, sorti en 1960. Charline, saviez-vous que ce film provoquait un véritable scandale lors de sa sortie et qu'il fut d'une certaine manière fatal à Michael Powell? Maintenant, expliquez-nous pourquoi.
Ben non, je ne le savais pas, Antoine, mais je vais quand même vous donner l'explication. Sujet trash et jugé malsain, pour la première fois, si je ne m'abuse, il est question de snuff movie. Le personnage principal meurtrier traque caméra au point la peur de la mort dans le visage de jeunes femmes. Plus, si on ajoute à ça nudité frontale pour la première fois au pays de sa majesté, égale shocking et accusation, je cite, d'offense à la nation.
Look out! Look out! Look out! Take care. You are being watched. We repeat, take care, for you are now alone with a killer. We warn you, don't let him see the fear in your eyes. For this is what he seeks, and this is why he kills.
Where are you? Where are you?
Le Voyeur de Michael Powell, réhabilité et largement depuis. Est-ce que vous comprenez pourquoi ce film a provoqué autant de remous lors de sa sortie, Jean-Pierre?
Il devrait toujours en provoquer parce que le héros Carl Böhm, c'est un jeune premier tout mignon sur lui. On le regarde filmer des jeunes femmes qu'il trucide, qui viennent de Sceaux, qui sont tous des nanas un peu louches. Et on prend plaisir à regarder ce film. Et lui prend plaisir à les filmer. Tout d'un coup, on se dit « Ah, zut !» Au cinéma, je suis un voyeur. Donc ça, c'est toujours dérangeant. Et quand on a des flashbacks, eh bien les flashbacks, c'est lui qui filme son fils à qui il fait peur. Donc on se dit, c'est lourd.
Ouais, ouais.
Mais je pense que Psychose, c'est un peu Bambi à côté, et que le voyeur qui nous dit une fois pour toutes que chaque fois qu'on regarde un film ou des actualités et qu'on y prend quelque part un plaisir, on est des voyeurs. Et donc, on n'a rien à dire contre ceux, contre Stan the Flasher. On l'est à notre manière tous. Alors évidemment, ça peut pas plaire. Dire au spectateur qui va voir un film de guerre où on trucide les gens, on leur coupe les jambes, qu'il est un voyeur. Dire que quand on voit un film d'horreur, quelque part, on a quelque chose en nous de malsain. C'est un film toujours scandaleux.
Allez le voir, c'est un film absolument incroyable. Le Voyeur de Michael Powell. Pour la série, vous avez choisi Le Prisonnier. Prisonnier de Patrick McGowan, diffusé entre 67 et 68 en Angleterre. Charline, je me suis toujours demandé quelle était la nature de ces boules qui poursuivent Patrick McGowan sur l'île du prisonnier. Une réponse enfin peut-être?
Probablement en rapport avec le tirage du loto, pour rappeler qu'il n'est pas un numéro. Je ne vois pas d'autre explication. Patrick McGowan y campe donc un agent secret britannique démissionnaire, enlevé et gardé prisonnier dans un village chelou par un mystérieux groupe.
Le Prisonnier est un poids lourd de la pop culture, Jean-Pierre. Cette série a inspiré le groupe de heavy metal Iron Maiden, Jean-Claude Van Damme, The Clash, Dominique Farrugia dans Les Nuls, Philippe Catherine, Chapeau Melon, Bottes de Cuir. La série a même été parodiée par les Simpsons et selon Jon Snow alias Kit Harington, la pop culture c'est ce qui est référencé dans les Simpsons. On est donc d'accord pour dire que votre choix est plus que pop.
Oh bah oui. En plus, il écrit, il réalise, il joue dedans et... Super, ça ne marche pas. D'ailleurs, il va être déprimé pendant les années qui suivent. Et après, depuis, c'est devenu le classique. Mais de toute façon, vous le passez demain matin. On a essayé de faire une copie, ça marchait pas du tout. Je ne suis pas un numéro. Vous êtes le numéro 6, je suis le numéro 1. À chaque époque, on se dit, je suis pas un numéro ou je suis un numéro. Donc, ça marche toujours. Et puis le village où ça se passe, tous ces gens qui disent bonjour chez vous, qui ont l'air bien aimables et qui en fait sont les derniers des ordures. Le fait qu'on ne peut pas échapper à son destin dans ce monde qui est dessiné contre nous, pas pour nous, c'est actuel. Le prisonnier, il est insurpassable.
Il me manque juste une musique pour conclure cette pop list et on va terminer avec une chanson. Et vous ne choisissez pas une chanson, mais un album. Shaft, c'est un album d'Isaac Hayes, sorti en 71, bande originale du film Les Nuits Rouges de Harlem. Et j'ai choisi pour vous le thème from Shaft, Oscar de la meilleure chanson originale. Who's the black private dick that's a sex machine to all the cheats? You damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Le thème de Shaft de Isaac Hayes, vous prenez tout l'album?
Bah, je prends tout l'album, je prends même la nouvelle version où il y a en plus les musiques intermédiaires sur un disque rouge qui sont aussi bien. Parce que Isaac Hayes, moi je suis en 71, je suis à l'Olympia, je vois James Brown, je trouve ça vraiment bien. Et puis juste après, le film est sorti, Les Nuits Rouges de Harlem, je vois Isaac Hayes arriver tout couvert de chaînes, torse nu comme ça. Et il s'adresse à la salle, il dit « Who is the man ?» Et la salle répond « Shaft !» Et le concert bouffe celui de James Brown. Et ce type qui est entre jazz et funk, invraisemblable. Alors, je finis l'histoire, j'arrive à Los Angeles, je viens de Hawaï, je suis avec ma femme. On descend à Los Angeles, un immense mec arrive avec un manteau noir, avec un tigre dans le dos, avec un petit calot noir. Il prend la valise de ma femme, il se tourne, sourire ravageur, il lui tend, il dit « Mademoiselle ». Il a entendu qu'on parlait français. Et je lui dis « Ta Shaft qui t'a tendu ta valise ». Non, mais je l'aime par-dessus tout.
Vous voulez dire qu'il travaillait comme bagagiste?
Voilà, je l'aime par-dessus tout. Et j'ai appris récemment que après il va tout perdre, dont sa Rolls en or massif, ce qui n'est pas très malin, sa Cadillac en or massif. Et le seul qui lui portera de l'argent à l'époque où il est à la ramasse complète, il n'a plus rien. On lui a pris ses disques d'or où il n'y a pas d'or. C'est James Brown qui lui apporte un peu de cash toutes les semaines.
Ah, j'aime ça, vous dites James Brown, comme moi.
Ouais.
Hein? Alors qu'on dit James Brown.
On l'a connu, il était brown, on était français.
Ne regardez pas comme ça, Charline.
Mais moi, je n'ai rien dit, vous êtes tous les deux contre moi, alors que je n'ai pas ouvert la bouche. Mais je ne critique pas.
Vous avez dit, c'est très intéressant.
Je bois vos paroles.
Mais on vous aime beaucoup.
Je résume.
On se connaît mal, mais...
Je résume. Une sorte de vie, nu au soleil, le voyeur, le prisonnier et Shaft. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Look out! Who's the black private dick that's a sex machine for all the cheats? Take care.
C'est là que s'est modelé le premier masque dont le moule servirait sans fin.
We warn you, don't let him see the fear in your eyes.
Who is the man that would risk his neck for his brother, man?
This is why he killed.
Voilà ce qui traîne dans la tête de Jean-Pierre Dionnet en ce début septembre 2019. Ça fait peur. Jean-Pierre, avant de parler de vos mémoires, il y a un son qui vous a accompagné pendant plusieurs années. C'est le générique des Enfants du Rock, composé par The Cure, avec un titre qui a plus tard intégré l'album Kiss Me. Kiss Me sous le titre Just Like Heaven.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Dionnet qui vient nous présenter ses mémoires intitulées « Mémoires ». En deux mots, et une précision s'impose, pourquoi cette référence à ces trois divinités grecques dont l'activité principale consistait à poursuivre les crimes des hommes et des dieux ? Qui sont-elles, vos mémoires à vous, si elles existent ? Et quels crimes avez-vous donc commis, Jean-Pierre ?
Alors je pense qu'on a tous des mémoires derrière soi, hein, que quelque part les divinités, si elles existent, doivent pas être meilleures que les hommes.
Mmh, non,
donc je préfère croire aux mémoires, mmh. Voilà. Et puis les mémoires, moi je pensais aussi au sens tissu. Les moirages, je pensais plutôt au sens photographique, on comprend pas bien, je pensais au sens mathématique, des formes indéfinissables qui changent tout le temps.
Le spirituel, la ménagère. Vous avez pensé au dieu, Antoine, j'ai pensé au tissu.
Et ben voilà, si tu veux. Et pour résumer, on va la faire simple, tiens, je le tutoie, mais on va pas faire semblant de se voyer depuis 50 ans. Si tu veux, je me suis dit que mes mémoires, c'était forcément subjectif. Mmh. Donc, ce que je me souviens est en plus partiel. Donc, mémoire, ça veut dire que faut me croire, mais à moitié, parce que c'est mon point de vue.
Bien sûr.
Donc, c'est des mémoires, c'est pas des mémoires. Ah, okay. Je suis pas Chateaubriand et je viens pas d'outre-tombe.
Pas encore.
Alors, des mémoires rendues possibles grâce à votre immense mémoire photographique, dites-vous, qui vous permet de trouver, je cite, chaque souvenir à sa place, bien rangé, étiqueté. Comment est-ce que vous avez décidé de ceux que vous alliez sortir de leurs étagères ?
J'ai pas décidé. On m'a forcé la main. C'est-à-dire que je faisais un livre infaisable.
On, c'est Christophe Killien avec qui vous avez écrit.
Et c'est Killien, c'est d'abord l'éditrice qui m'a dit, vous allez faire vos mémoires. Alors, après, il y a plein de mecs qui ont fait leur mémoire qui m'ont dit, oh là là, on n'a pas voulu te prévenir, mais ça veut dire aller puiser au fond, aller chercher les morts et tout, c'est l'horreur, je l'ai fait une fois dans ma vie, personne ne me l'a dit. Et Killien a été un gentil bourreau, mais un bourreau quand même, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas lâché. Mais alors Killien, il était rigolo parce que, je suis un peu cyclotimique, ça nous arrive à tous, mais moi particulièrement. Donc je suis soit Dieu en haut de sa colline qui va descendre sur Moïse, soit je suis la dernière des raclures, Fernandel sous le pont, en clochard. Donc il y avait des jours où j'étais la dernière des raclures. Alors, on parlait tout l'après-midi, j'avais une voix éteinte, je disais, alors, c'est le jour où j'ai ouvert la porte à Hong Kong et dans le placard, il y avait Jackie Chan. Oh, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est nul. Il disait, non, c'est bien. Puis un jour, je disais, alors, c'est le jour où je dis à Stanley, t'es très con de pas faire Métal Hurlant. Et Stanley, après, il a regretté. C'était bien aujourd'hui, il me disait. Ouais, c'était pas mal.
Mais voilà, vous parlez de Jackie Chan, vous parlez de Stanley. C'est ça, c'est pas seulement une autobiographie, c'est aussi une déclaration d'amour à la pop culture, ce livre.
Oui, et puis surtout aux rencontres. Mmh. Aux rencontres avant qu'ils m'ont fait, parce que sans ça, j'aurais jamais rien fait. Ouais. Et aux rencontres de hasard, de gens qui sont devenus des amis. Je me souviens un jour au musée du judaïsme, on parlait de tous les dessinateurs juifs, et il y avait un type qui arrivait dans les années 90, un super intello, qui disait « Oui, alors moi qui suis juif, je connais très bien les dessinateurs juifs. » Et la patronne du musée du judaïsme, qui s'appelle Marie-Hélène Houg, dit « Excusez-moi, mais Jean-Pierre Dionnet, le Goy, en 72, les a tous interviewés, et ça vous intéressait pas ?» Et le Goy était content, et Joe Kubert, à côté de moi, dit « Oui, c'était le seul qui s'intéressait à nous. »
Un amour de la pop culture qui remonte à l'enfance et à Zorro, que vous pensiez d'ailleurs tourner en noir et blanc, ou plutôt devrais-je dire aux enfances, pourquoi cette orthographe plurielle dans votre livre ? Enfance au pluriel ? Pourquoi enfance est orthographié au pluriel, le chapitre « enfance » ? Vous avez l'impression d'en avoir vécu plusieurs ?
Faudra demander à Killien, c'est mon monsieur Ramirez. Parce que je crois qu'il a compris que j'ai eu plusieurs enfances, mais c'est vrai. J'ai eu une enfance, ticket de rationnement, la guerre, un œuf à Paris, en Creuse. J'ai eu une enfance à Livry-Gargan, dans une grande propriété, mais dans une banlieue pourrave. Et puis j'ai eu essentiellement mon enfance chez les oratoriens, l'eau froide, le lever des couleurs le matin, le calot, le drapeau qu'on monte, puis la messe, puis le petit déjeuner. Alors, en fait, ça vous segmente pas mal. Mmh. Parce que d'un côté, vous êtes avec le fils de Sangor. De l'autre côté, vous êtes à côté du mec dont le père lui demande juste, comme chez Réserve, porter les litres de vin à la maison le soir quand il rentre de l'école. Et dans la Creuse, là, vous êtes au paradis, avec des gens adorables, mais qui vous donnent quand même un petit coup de rosé dès que vous avez 12 ans, quand vous aidez la batteuse, quoi.
Jean-Pierre Dionnet, le moment de l'autobiographie, c'est aussi celui du bilan, l'équivalent de la révision des 50 000 hein, pour une voiture. Alors, des remords, des regrets ?
Oh bah, aucun remords, aucun regret, parce que de toute façon, quand on prend le chemin droit...
Des regrets, il y en a.
Ouais, il y en a forcément, mais je me dis que quand on prend un chemin, on peut pas prendre l'autre, qu'on n'a pas le choix. L'un dans l'autre, je suis assez content. Alors, j'ai raté des trucs, ouais. J'en ai réussi d'autres, ouais. Les regrets, j'ai dit mes grosses erreurs, les trucs monstrueux. Mais quand on va vite, on fait des erreurs tout le temps. Mmh. Alors, je pense pas que j'ai fait beaucoup d'erreurs humaines dans mes rapports avec les gens et tout, mais alors, au niveau boulot... C'est une catastrophe. Je parle de mes banquiers, j'en aurais plus jamais de banquiers maintenant, vu ce que j'en dis. Mais même si on voulait me nommer à la tête, je sais pas quoi, de l'Institut du Rabusqué, on le ferait pas, on se dirait, ce mec, il peut même pas gérer son linge sale. Je reconnais mon incompétence dans des tas de domaines.
Managérial.
Hein?
Managérial.
Ah oui, oui. Oh là là. Et puis, non, c'est pire que ça, c'est que je fais de la science-fiction avec moi.
Mais vous parlez de pas de regrets de comportement. Si, il y a quand même quelques réserves sur votre comportement dit de starinette au moment de votre participation à Sex Machine au cours de laquelle vous avez découvert que la télé rend beau et attirant.
Ben oui, mais quand vous avez été un ado enfermé en pensionnat, donc aucune possibilité de quoi que ce soit, on ne s'était pas mixte et j'étais d'un bord précis, donc je vais avoir j'appelle un dépucelage obligatoire tamponné une fois, et après jusqu'à 30 ans, comme je suis amoureux de Jeanne Tierney, je trouverai jamais chaussures à mon pied. Oh, parler de chaussures et de Jeanne Tierney, c'est pas bien. Donc le jour où je suis une starinette, c'est Moebius qui utilisait ça, que j'arrive dans un nightclub à côté de Genève et qu'il y a 10 nanas qui disent « On est à Genève pourtant, mais là, ils ont la télé là-bas. Notre télé. » Et elles disent « Oh, oui, vous voulez danser avec moi et tout ?» Je me souviens, j'étais avec un multimilliardaire qui dit « Mais moi, j'ai mon argent, comment tu fais ?» Je disais « C'est mon charme. » C'était pas mon charme, c'est que j'étais dans le poste et que des jeunes filles crédules pensaient attraper cette espèce de gloire fugace. Et pendant 2 ans, je suis dans la pâtisserie et je mange des gâteaux, mais en quantité énorme. Je me rattrape complètement, j'invente le dîner de con. Mais j'appelle ça le dîner de Suzanne, mais c'est très très
avec
grave. J'espère que les féministes,
les
chiennes de garde vont me tomber dessus. Parce que trouver des Suzanne, ça va, trouver des Corinne, ça va. Mais les derniers prénoms, je sais plus ce que c'était, ça devait être des Cunégondes. On en a eu que 4 à table, mais on les a trouvés. Et puis après, c'est passé.
Jean-Pierre, il y aurait de quoi tenir une semaine complète d'émission avec tout ce que vous avez vécu. Mais restons quelques instants sur la période Métal Hurlant. C'est un journal que vous avez créé en 75 avec Druyet, Moebius et Bernard Farkas. Un journal dont les millénials n'ont sans doute jamais entendu parler. Expliquez-le.
On est en décembre 74. Exactement. Ça sort début 75 pour Angoulême. Et on fait un journal de BD, de science-fiction au départ, qui va devenir rock et tout ça. Mais au départ, il est de BD de science-fiction. Alors, il y a Druyet qui a déjà éclaté les cases de la bande dessinée. Il y a Moebius qui est encore Giraud, qui veut devenir Moebius. Il y a moi, il y a Gall, qui est mort trop tôt. Il y a Corben. Et on fait un journal de BD de SF qui va marcher de mieux en mieux. Et puis, comme on n'a pas de budget, on n'a pas d'argent et que on a plus de dettes qu'on gagne d'argent, on va se casser la gueule un jour. Mais de toute façon, l'aventure devait pas durer plus de 10 ans. Je dirais même que 8, c'était bien. On fait le meilleur journal d'imagerie de science-fiction du monde. Pourquoi?
Je crois que
de la part de Druyet, c'est parce qu'il invente un truc. De la part de Moebius, c'est qu'il a tout regardé ce qui s'est passé avant. Les fusées blanches, Flash Gordon. Et on invente l'avenir rouillé. Et l'avenir rouillé, c'est ce qu'on va retrouver dans tout le cinéma américain. Alors ça me gonfle un peu pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la porte à toute une vision du futur. D'ailleurs, maintenant, quand je vois un vaisseau rouillé, je change de chaîne. Parce que c'est devenu la nouvelle figure de style. J'attends les prochains. Mais on fait, je crois, à un moment précis, c'était Nick Ken qui me l'avait dit. Il me dit, est-ce que tu te rends compte que t'es peut-être en train de faire le meilleur journal du monde? Alors, on va dire qu'on a fait le meilleur journal du monde pendant 6 mois.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal du tout. Et comme c'était un fanzine, ouais, et que ça devient un journal tout d'un coup, et que tout d'un coup, du 50 au 60, au moment où je sais que ça va finir bientôt, c'est la charge de la brigade légère, on fait une revue à tomber par terre. Ouais. Vous y êtes passé, mon vieux, d'ailleurs.
Mais oui, je sais, je me souviens
vous
très bien.
Vous y collaborate.
J'y collaborais.
Et on a, là, à ce moment-là, le journal est d'une tenue. Alors, les textes, les BD, et les textes, la violence verbale qu'on avait à l'époque, mais là, maintenant, aujourd'hui, ils m'attendent devant la porte, les flics. Ce qu'on pouvait dire à l'époque. Et ça vous concerne, monsieur Decaune.
Je sais, mais je préfère ne pas revenir là-dessus. Métal hurlant, voilà. C'était un moment de grâce dans l'histoire de la presse française, comme ce que vous avez fait en télévision, les Sex Machines, l'Impeccable, ou plus tard les cinémas de quartier. Voilà, Jean-Pierre Dionnet, je le disais au début de cette émission, est une véritable légende. On est ravis de vous avoir dans, sur ce studio avec nous. Est-ce que vous savez faire ça, Jean-Pierre? Mais oui, il sait le faire, bien sûr, il sait tout faire. C'est pour lancer les Pop News.
Aux États-Unis, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, manger du gras en grande quantité, dire ce qu'on veut, se promener armé, mais il y a une chose interdite, en tout cas au sein de l'école catholique de Nashville, c'est de lire Harry Potter. Raison invoquée par le pasteur, je cite, ces livres présentent la magie comme à la fois bonne et mauvaise, ce qui est faux. En revanche, les sœurs et malédictions citées dans le livre sont de vraies sœurs et malédictions, ce qui signifie que lus par un être humain, ils peuvent convoquer les esprits malins. Fin de citation. Et ceci n'est pas un article du Gorafi. Trificus Totalus.
Renée Zellweger is back. La comédienne, rendue célèbre entre autres rôles par celui de Bridget Jones, sera Judy dans le film du même nom, Garland de son petit nom, dans un biopic s'attachant à sa période Swinging London. Et Renée n'est pas du genre à se laisser doubler, comme le prouve le premier extrait de la BO où elle donne aussi de la voix. Somewhere over the rainbow, way up. Judy, le film sortira en France le 15 janvier en attendant le biopic de Jean Gabin, interprété par Mimi Mati.
Dans l'espace, certes, personne ne vous entendra crier, mais en kiosque, c'est sur Rocky Rama que les fans devraient se ruer pour ce numéro 99% Alien et sous-titré « On naît, on regarde Alien, on meurt ». Au programme, les racines du mal, les obscures références d'Alien le 8e passager, Alien Psychosis, car oui, la peur est réelle, Ridley Scott avant Alien, le son d'Alien, les créatures de papier et bien d'autres réjouissances à retrouver dans ce Alien aux sources du mythe par Rocky Rama. Évidemment, c'est cadeau pour vous, Jean-Pierre Dionnet.
France Inter. Popopop. Antoine de Cône.
Oui. Mais Alien ne parle pas, hein.
Je parle.
Non, non, c'est pas du tout possible.
Merci, Charline. Avant d'accueillir Guédré, on écoute un classique présent dans votre livre, Nino Ferrer. Je voudrais être un noir. You wear something cut. Hey, 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 you drop Monsieur James Brown. S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites, Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Monsieur Phobus, hé hé hé, dis-moi comment les blancs font pour vendre les nègres à l'Argus et pour en brûler de temps en temps. Et moi je fais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Noir. Et vous
Hey, vous les simples d'esprit, vous qui chantez tout de blanc vêtu dans les verts pâturages près de lui, dites-moi s'il vaut mieux pour entrer dans ce royaume avoir plutôt la peau noire ou plutôt la peau jaune. Et si le blanc n'est pas une couleur déconseillée parmi vous,
Nino Ferrer, je voudrais être noir, même si Ghislain Fontana, le réalisateur, me dit qu'en fait le titre c'est Je veux être noir. C'était en 1966 et c'était en public. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes donc toujours en compagnie de Jean-Pierre Dionnet et vient de nous rejoindre Guédré. Bonjour Guédré.
Bonjour.
Guédré, ce n'est pas un pseudo, c'est votre prénom. Guédré, ça va plaire à notre invité. Vous vous situez entre l'underground et le mainstream, et ce mélange équilibré vous plaît bien, car je vous cite, plus l'audience est grande, plus on se pose deux questions selon vous, et plus on fait les mauvais choix pour la garder, cette fameuse audience.
Eh bah oui, je pense. Je pense que quand on n'a pas d'ambition, on ne se pose pas de questions. Et c'est parfois mieux.
Voilà, alors Guédré, sur scène, vous portez un costume tout mignon, avec des nœuds, des cœurs, on dirait que vous sortez directement d'un film de Walt Disney. Et dans ce costume, vous chantez ça.
Meurs, 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 qu'on n'en parle plus.
Des mots crus, politiquement incorrects, pour aborder des sujets comme la prostitution ou la pédophilie, mais selon vous, vos textes ne sont pas choquants. C'est la réalité qu'il est.
Bah, en tout cas, ils sont moins choquants que la réalité. Ça, oui. Et,
vous serez toujours en dessous?
Bah oui, malheureusement. Je crois que malheureusement, la vérité sera toujours pire que ce que je pourrais écrire.
Mais ce qui vous amuse, c'est de chanter sur cette réalité.
Bah oui, parce que déjà, ça la rend un peu plus accessible, parce que mettre des jolies notes, c'est mettre un peu comme des fleurs dans des parcs où finalement les gens dorment par terre, mais ça fait joli quand même les fleurs. Oui, ça rend les sujets un peu plus facilement abordables en tout cas.
Antoine parlait de physique sur scène à la Disney. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de transposer vos personnages au cinéma? Et est-ce que ce serait faisable selon vous?
Ah ouais, ce serait super en tout cas. On me l'a jamais proposé, j'y avais pas vraiment pensé, parce que c'est vrai que j'écris ça vraiment comme des chansons. C'est important que ça le reste aussi. J'ai toujours adoré ce média-là, mais ce serait cool. Ouais.
Une comédie musicale trash.
Ah ça, ce serait vraiment belle. Il y aurait de la place pour beaucoup de gens.
Alors Guédré, vos chansons ne sont pas pour toutes les oreilles. Vous fixez même l'âge limite à 14 ans.
Bah, ça dépend à quel point les parents mentent à leurs enfants sur la réalité du monde. Mais ouais, je pense qu'à 14... Bah, je pense que plus ça va, plus on peut baisser, quoi. Parce que je crois qu'ils voient des trucs vraiment un peu gore bien avant, mais ouais.
Vous serez dans quelques instants en live, je le dis pour les oreilles les plus chastes, hein, sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Mais avant ça, parlons de La Boîte de Petits Pois, votre livre édité chez Une Case en Moins et illustré par Oli R. La Boîte de Petits Pois, c'est votre histoire et celle de votre famille, de votre enfance en Lituanie à votre arrivée à Paris en 91. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce médium pour raconter votre histoire?
Oui, effectivement, ça parle du quotidien, vraiment des gens. Et bon, là, en l'occurrence, c'est le prétexte de ma famille, mais ça ressemble au quotidien de tout le monde sous l'URSS. Et en fait, c'est un peu comme la chanson, c'est-à-dire que, voilà, agrémenter ça de très jolis dessins, voilà, qui ont été faits par Ollière, avec des belles couleurs, tout en aquarelle, etc. Bah, ça rend peut-être cette réalité un peu sombre, voilà, plus plus lisible, mmh, en tout cas. Et puis, parce que la bande dessinée, ça permet aussi différents niveaux de lecture, je pense, parce que voilà, il y a le texte, mais le dessin permet de donner une indication supplémentaire de la lecture quand on aimerait voilà, que soit fait le texte. Quoi.
Dans ce livre, vous évoquez la déportation de votre oncle à 17 ans vers les camps de Sibérie, la vie de votre grand-mère aussi, tout en essayant de comprendre cet état dictatorial, communiste, avec des yeux d'enfant. Mais ce n'est pas du guédré dans le texte, enfin, pas comme nous le connaissons. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix éditorial ?
Bah, en fait, j'ai vraiment voulu raconter comment moi je me souviens de cette période et comment on me l'a raconté aussi. Quand ça, la BD commence quand ma mère est enfant, donc j'étais pas encore là. Et donc, effectivement, c'est un peu le regard que je portais sur toutes les choses quand j'étais enfant. C'est pour ça aussi que c'est, enfin, que moi je trouve ça assez rigolo et que c'est plutôt, enfin, que j'ai voulu en tout cas que ce soit assez léger. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on se pose pas de questions de pourquoi il n'y a pas de papier toilette et que, genre, c'est quoi une banane? Enfin, quand on n'a rien avec quoi comparer, en fait, on n'est pas triste et on trouve rien horrible, quoi. Enfin, quand on connaît rien de mieux, tout va bien, quoi.
Alors, votre maman et Jean-Pierre Dionnet ont un point commun. Ils sont tous les deux très amateurs de ping-pong.
Oui, elle était championne junior du RSS. Ouais,
Vous voulez dire qu'elle aurait mis une pâtée directement à Jean-Pierre?
Ah, mais vraiment, une grosse raclée, quoi.
Mais moi... Au dos du livre, il y a un truc qui m'interpelle. Je vois Histoire de Lituanie, arrivé en 91. Il y a une phrase qui me plaît beaucoup. C'est une autre planète. On parle d'ici, je pense. Débordant de supermarchés, plein de produits, mais où apparemment, il ne suffit pas de se servir pour avoir le droit de les avoir. Ouais, ouais. Et là, moi, je le vois, le film ou l'histoire. Ouais, ouais. C'est la découverte de ce pays d'abondance, mais... Hey, pas touché, payé.
Bah oui, mais après c'était un peu l'idée parce que je voulais surtout pas. Déjà, je voulais pas faire un livre d'histoire parce que je suis pas historienne et je suis sûrement pas bien placée pour en parler. Et surtout, je voulais surtout pas faire quelque chose de manichéen où il y aurait d'un côté quelque chose de très sombre et de l'autre côté la lumière, parce que c'est pas vrai non plus. Et effectivement, quand il y a l'arrivée en France, donc il y a la découverte de toutes ces choses. Enfin voilà, les yaourts, les sucres en morceaux, mais aussi les sans-abri, les gens qui sont voilà, dans la misère. Enfin voilà, donc rien n'est merveilleux et rien n'est tout à fait horrible non plus.
Guédré, vous nous avez rendu visite aujourd'hui en nous faisant une promesse, celle de nous faire une petite chanson en direct sur la scène mythique de Pop-Pop-Pop. Je vous propose de rejoindre cette scène. De ce pas, pendant ce temps, je vais meubler, comme je sais si bien le faire.
C'est vrai que vous meublez bien, patron,
oui,
quand même.
Merci, merci. En commentant ce qui se passe, voilà, Guédré est en train de saisir sa guitare. Elle
sur laquelle son nom est écrit en paillettes.
Oui, en paillettes, c'est très joli.
Ouais, j'ai des problèmes de mémoire.
Elle se cale devant le micro, et puis dès qu'elle est prête, elle va me faire un petit signe et je lui ferai le pop de lancement.
Eh bien, je suis prête.
Alors, Farhu.
Extrait de nouveau...
J'aurais pu écrire des chansons sur des gens tout le temps super. Des gens qui n'ont jamais, par exemple, rêvé de tuer leur mère, de lui enfoncer des couteaux dans les yeux et lui faire cracher ses boyaux. Mais je crois que dans la vraie vie, il n'existe pas trop. J'aurais pu faire de la musique pour parler de gens merveilleux, de gens qui n'ont rien de mauvais, rien de vicieux en eux. Ces gens qui te font te sentir tout zéro, tout naze et tout pourri. Mais je crois qu'à les regarder d'un peu plus près, ils ont en eux du pourri aussi. Moi, je fais des chansons sur les gens comme ils sont vraiment. Les gentils, les gens bons, les gens nuls et les gens méchants.
les gens moins bien que toi et les gens beaucoup mieux que moi. Parce que je crois qu'un genre c'est un peu de tout ça. C'est un peu de moche, un peu de dégueu, un peu de peut mieux faire. Un peu de raté, un peu à côté, qui essaie beaucoup mais qui galère. Un peu de mieux de temps en temps, mais de très foiré le plus souvent. Qui pleure devant des films tristes, mais fout des droits à ses enfants. C'est un gros tas de merde enfermé dans un corps avec des trous dedans. Pour faire passer un peu de lumière et dissiper le néant. C'est un mélange étrange de trucs plutôt pas mal et de tout pourri. Les gens, c'est un peu tout ça et il n'y en a pas d'autre que nous. Et moi, je fais des chansons sur les gens comme ils sont vraiment. Les gentils, les gens bons, les gens nuls et les gens méchants. Les gens moins bien que toi et les gens beaucoup mieux que moi. Parce que je crois qu'un genre, c'est un peu de tout ça.
Bravo, Guédré, les gens en live sur la scène de Pop Pop Pop. Guédré, vous êtes en tournée avec votre spectacle Guédré et les gens. Vous serez le 9 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre à l'Européen à Paris. Et toutes les autres dates sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci d'être venu dans
Merci
ce studio.
Merci.
Merci Jean-Pierre Dionnet. Mémoire, en deux mots, c'est édité chez Hors Collection. Nous étions ravis de vous avoir et c'est un livre indispensable pour tous ceux qui aiment cette pop culture qui nous est si chère. Merci d'être venu.
Merci à vous et puis j'ai découvert une chanteuse conséquente.
Eh oui, absolument. Il en faut. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop. Demain dans l'émission, Anna Girardot et Cédric Clapiche. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuval la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos ping-pong sur YouTube. Abonnez-vous.
Vous jouez bien hein, quand même.
Abonnez-vous.
On sent le
abonnez-vous à notre podcast.
Ça va aller ?
Oui, très bien. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.